les autres voix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Nous sommes toujours donc au forum des médias indépendants à Rennes et là nous sommes avec Apolline. Bonjour Apolline.
Bonjour.
Donc Apolline, toi tu vas nous présenter un média problématique. Est-ce que déjà tu vas nous le présenter? Quand est-ce qu'il a été créé? Pourquoi?
Alors, Problématique existe depuis un mois maintenant, c'est vraiment tout frais. Problématique, c'est un média queer pour dégager l'horizon qu'on a conçu et réfléchi avec deux collègues à partir de fin 2024. Ces deux personnes sont Léa Nalestra et Aria Meroni. On publie toutes les semaines environ entre 3 et 4 articles. L'idée, c'est de pouvoir produire un regard sur l'actualité et documenter les attaques contre les marges aujourd'hui, personnes queer, personnes racisées, mais aussi de faire rayonner les savoirs et les initiatives qui émergent des marges, parce qu'on pense que c'est vraiment essentiel aujourd'hui dans le moment politique qu'on vit.
Là, tu nous parles de 3-4 articles qui sont publiés chaque semaine. Donc, Problématique, c'est un média en ligne. Comment est-ce que vous travaillez, le comité de rédaction? Comment est-ce que vous faites ce choix? Est-ce que c'est en réaction à l'actualité ou est-ce que c'est des sujets que vous voulez aborder?
Alors, il y a une partie où on a défini, on s'est lancé avec un budget grâce à une campagne de dons qu'on a réussi à l'automne 2025 à hauteur de 100 000 euros. On n'a pas touché exactement 100 000 euros, mais on a quand même un budget pour nous rémunérer et pour des piges. Et donc, dans ce qu'on publie, on a fait un point assez rapidement sur les propositions intéressantes qu'on a reçues en début d'année. On répartit ces piges au mois, mais sans thématisation pour l'instant. On est beaucoup parti de sujets qu'on avait déjà en tête et on suit quand même d'une certaine manière l'actualité, que ce soit l'actualité militante avec par exemple analyser pourquoi le 8 mars a été un tel succès de fréquentation dans la rue, ou analyser là dans la politique internationale pourquoi Mélanie a essuyé un non à son référendum pour la justice. Moi, je suis journaliste culture, donc j'ai suivi plutôt des sorties de documentaires ou des sorties d'albums. Je suis plutôt journaliste musique. Et voilà, on équilibre. On a une réunion, on va dire au moins hebdomadaire en idéal, mais là on est sur un semestre où on est un peu toutes éparpillées dans le sens où on est trois à écrire des livres et dans des stades différents. C'est-à-dire que là, Léane est en train d'écrire son troisième livre, Aria finit d'éditer le sien et moi je suis en promo de mon deuxième. Donc on s'arrange au maximum, on a des bureaux en physique et on valorise beaucoup les réunions en présentiel, mais s'il y a des choses auxquelles on a besoin de réagir, on essaie de faire des arbitrages pour ne pas se surcharger et produire quelque chose de qualitatif, vraiment ce qu'on a à dire, mais on essaie d'anticiper aussi beaucoup. Là, par exemple, on a quand même Léane et Aria avaient envie de réagir à l'annonce de la grossesse de Marine Tondelier, qui est effectivement un fait notable dans le paysage politique, mais qui fait des choix aussi de rhétorique qui sont discutables, en tout cas analysables. Donc ça a été un bon travail collectif pour quand même le sortir assez proche de l'événement de l'annonce en tant que telle.
Tu nous dis que vous êtes trois à sortir prochainement des livres. C'est des livres dont les sujets sont en lien avec la ligne éditoriale de Problématique?
Oui, tout à fait. Donc moi, je suis journaliste culture et je travaille depuis 5 ans sur le drag. C'est sur ça que portent mes livres. Aria, donc, qui vient plutôt du terrain, du militantisme, là, elle sort un livre sur les stratégies de la gauche et la question du progressisme et l'équilibre entre victoire politique, bataille culturelle. Et Léane, qui fait des recherches en études de genre, travaille depuis longtemps sur l'hétérosexualité obligatoire pour les hommes et sur les femmes d'extrême droite, les notions de fémonationalisme. Donc c'est vraiment, on se rejoint complètement à travers les sujets qu'on traite. Ça se retrouve beaucoup dans Problématique, en effet.
Je ne sais pas s'il y a d'autres médias comme vous qui abordent justement les questions queer, entre autres, avec une volonté comme ça d'en discuter, d'une régularité de parution, d'une volonté d'être, entre guillemets, un média national.
Ouais, alors il y en a. C'est l'histoire de les équilibres financiers et la longévité des médias queer. C'est compliqué depuis très longtemps. Il y a beaucoup de médias associatifs ou de publications de type fanzine qui occupent un espace vraiment important sur des enjeux intracommunautaires, culturels. Je pense à PD La Revue, à Trou Noir, qui font un travail de défrichage aussi beaucoup scientifique. Mais on va dire que oui, sur l'espace qu'on occupe, Committed était là à un certain endroit, mais je pense pas avec autant de d'exigences sur les sciences humaines que ce que nous et d'appétence que ce que nous on a, mais en termes de rythme de publication, bon, ça pouvait un peu ressembler, puis c'était accessible, mais ça n'existe plus vraiment. Donc des équivalents, pas beaucoup. Ou alors ça va être très, il y a beaucoup de médias qui se sont créés sur Instagram, mais qui ont le défaut d'être sur cette plateforme uniquement, avec tout ce que ça peut poser comme problème de censure, mais aussi en termes de cadrage de la pensée et de modération. Après, l'avantage, c'est la proximité avec une communauté, des échanges. Donc il y a des gens dont on partage des terrains. Par contre, sur la formule où on est, effectivement, à ma connaissance, on n'a pas trop de concurrents, entre guillemets. Et même si on avait des concurrents, on n'est pas dans un moment où justement les titres de presse peuvent se faire une concurrence bête et classique. On est plutôt intéressé par la collaboration.
Précédemment, tu nous disais que justement vous abordiez les questions queer et les questions aussi des personnes racisées. Quel est le pont entre les deux, ces deux milieux quand même qui peuvent être différents, même si je comprends qu'ils peuvent se rejoindre, que des personnes peuvent être queer et racisées, mais ces deux thématiques quand même qui sont un peu différentes au départ?
Oui et non, dans le sens où y a les personnes qui sont à l'intersection des deux, mais par exemple les études queer, les textes des grands des penseurs des études queer doivent beaucoup aux pensées des féministes noires états-uniennes et chicanas. Donc et ces liens-là, ils ne sont pas forcément toujours très connus, très actuels. On les connaît pas d'une manière actuelle là, et peut-être qu'il faut les exhumer. Il y a des personnes qui le font dans leurs recherches. C'est des travaux de recherche qu'on a peut-être besoin de mieux vulgariser, de mettre en avant. Le lien, il est déjà historique, j'ai envie de dire. Après, il est là dans l'urgence. En fait, il y a quand même des stratégies de bouc émissaire. Ou des attaques contre le communautarisme qui sont potentiellement assez communes. Le lien, il est aussi sur les politiques de respectabilité, les stratégies que peuvent mettre en place des groupes discriminés pour s'intégrer à la norme. Certaines personnes qui sont issues de l'immigration ou non blanches peuvent être tentées d'entrer dans un certain discours, tout comme le sont des personnes gays et lesbiennes aujourd'hui qui adhèrent pleinement à un discours homonationaliste.
Du coup, vous abordez de manière un peu globale tout ce qui est discrimination des personnes, que ce soit sur le genre, la race.
En tout cas, c'est ce qu'on voudrait. Et là, je pense que ça passera aussi par des commandes qu'on pourra, des sujets qu'on peut identifier, des collaborations à créer. Là, je pense que dans ce qu'on a eu, on a la sociologue Anan Karimi qui nous fait une petite série autour de la guerre culturelle et qui explique comment on fabrique un ennemi de l'intérieur. Donc c'est une série en 3 épisodes et ça illustre un peu ce qu'on pourrait créer aussi comme pont. C'est aussi aller solliciter des personnes qui expliquent des mots ou des enjeux actuels, mais avec aussi leur expertise, leur personne. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont à construire en fait entre ce qu'on fait au quotidien et après ce vers quoi on a super envie de tendre Là, sur un mois, je pense qu'on a donné un bon aperçu de ce qu'on pouvait faire. Après, sur spécifiquement, par exemple, ces ponts entre antiracisme et LGBT-phobie, c'est vraiment un travail de fond qu'il faut qu'on fournisse et sur lequel voilà, il faut qu'on se donne des collaborations très concrètes. Mais par exemple, si ce qu'on a déjà fait, c'est l'histoire un peu géopolitique du pinkwashing. C'est comment Israël a vraiment très tôt investi ce registre pour restaurer son image. Et ça, ça a été fait, c'est un texte qui a été écrit par Jean Stern, qui est un des cofondateurs de Orient 21, de Guépier historiquement. Donc, les personnes qui sont à la jonction des deux, elles produisent aussi des savoirs qui sont vraiment très très précieux et qu'il faut voilà, faire rayonner. Et on va être là pour ça.
Là, t'écoutais parler, il y a quand même pas mal de références aussi un peu sur une histoire, soit des médias, soit de l'expression. Tu nous as parlé de Guépier, entre autres. Est-ce que tu peux nous le resituer ?
Ouais, oh là, Guépier, je connais pas hyper bien l'histoire. Justement, Jean va peut-être nous la raconter d'une manière qu'il n'a jamais faite. Et j'ai hâte de lire cet article parce que nous, les luttes dont on vient, elles ont un déficit d'archives chroniques et c'est un déficit qui empêche de penser voilà, des choses de manière structurelle ou au contraire nous confronte à des problèmes qui sont en fait cycliques et que d'autres militants ont connus à d'autres époques. Et donc Guépier, c'est un journal historique, c'est vraiment le premier... C'était le premier national gay, en fait, si je me souviens bien, parce qu'il y a certainement eu des publications, des fanzines et tout, mais Guépier a vraiment bénéficié des lois de libéralisation de la presse sous Mitterrand, même si, de toute façon, bon, la décriminalisation, c'est un processus, ça n'a jamais été pur et simple du jour au lendemain. Mais voilà, Guépier, c'était ce journal-là et qui a un peu posé les bases pour après voilà, un magazine comme Têtu, un peu généraliste.
Je me demande si Guépier n'a pas fait partie de ces journaux justement censurés, voire interdits de publication un temps. C'est peut-être sur Pasqua ou je ne sais plus. C'était ça pareil là, dans les années 80.
Ouais. Il y a eu, oui. Guépier a eu beaucoup de problèmes de censure. C'est pour ça que je ne suis pas sûre de... Ça, je le sais. C'est pour ça que je ne suis pas sûre de la date. Et que, ouais, voilà, Jean, il faut que tu nous racontes l'histoire parce que ouais, c'est intéressant, les gens... Enfin, nous-mêmes, moi, ça fait longtemps que je travaille dans la presse, les médias indépendants, plutôt presse indépendante. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte. Enfin, moi, j'ai vu l'évolution, en tout cas, se faire entre une presse un peu tradie, un site et Instagram et les réseaux sociaux. Et en fait, toute l'histoire de à quel point c'est une bataille d'avoir ses propres médias et de l'importance que ça a dans... la constitution de collectivité et des batailles collectives est un peu oubliée aujourd'hui. On en a parlé pendant notre campagne de dons et je pense qu'il faut qu'on continue parce que s'il n'y a pas une conscience de la part du lectorat de ça, effectivement après les médias font des choix douteux en termes de structure économique et perdent de leur pertinence, de leur utilité pour les gens qui sont supposés servir dès le départ, quoi.
Bah, merci à Pauline. Je rappelle donc que le nom de votre média, c'est Problématique avec un K. Et c'est un média en ligne, donc si tu pouvais donner l'adresse internet.
Bien sûr, www.problématique-6media.com. Le site est en accès libre grâce à des dons. Tous les articles sont téléchargeables en PDF si vous ne voulez pas lire sur écran. Et il y a une newsletter hebdomadaire qui envoie le récap de toutes les publications les dimanches. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup pour cette dynamique et la création de ce nouveau média qui me semble très important en effet dans l'univers médiatique actuel. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Direct, quand il arrive, ça scalpe les chauves. Ça chauffe le scalp. Tellement vite dans mes chansons que ça devient du morse. Une morsure. Attaqué par des vipères quand tu folles par les décibels. Tu chies sur ta montre. Tu chies sur ton montre. Ce beat c'est une boule de nerf qui grossit au fur et à mesure qu'il avance. Ce beat c'est une boucherie volante. Une boucherie qui vomit du feu. Une course de relais avec un bâton de dynamite. Qui démarre dardard et qui accélère à chaque virage. Un tabassage passif, une enclume. Une leçon d'amour aux zoos, une enclume. Un charnier sous le capot, une enclume putain. Mieux qu'un coup de foudre, le coup dit la peine.
un coup sur l'enclume, mes couilles sur l'enclume, un beat comme l'enclume, un beat comme une putain d'armée d'enclume qui avance sous une putain de pute, marteau figure. Tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus? Le rondin des mâchoires, le fistfuck de l'oreille, un kaléidoscope carnivore, un carnage qui sirote une cirrhose et pisse un arc-en-ciel, un bordel, un cercle vicieux dans un cul-de-sac qui se portait mieux qu'à la terre et ses plates. Dans putain, y'en a trois qui repoussent, ça me suit la couche, ça fout du beat.
Ça me suit la couche, ça fout du beat.
C'est pas un bon riff ça. C'est pas un bon pizza. Alors bouffe-le. Bouffe mon beat. Bouffe mon beat. Putain, ça qui t'excite. C'est tout ce que tu mérites. Frais comme un lardon, un chaudron. C'est un beat qui tape dessus pour t'éteindre. Qui te perce le crâne et t'ouvre le cerveau en quatre. Pousse à l'envers, ça t'engorge les coronaires.
Des artères en fusil, chirurgie dans le noir, catapulte des steaks en pagaille. Et regarde, par terre.
Soit tu recolles les morceaux, soit tu les jettes à la poubelle.
Les poubelles ont la rage, les égouts ont la haine.
C'est une bombe à neurones.
Quand tu gommes, ça fait chouine. Quand tu gommes, ça fait chouine. Quand tu fasses, ça fait foudre. Alors quand tu bites, ça fait bam. Ça fait boum, putain.
Ah. Un beat qui bouffe un champ, boit un lac, chie un port d'avion. Un beat qui se peigne avant de coller un front. Un beat né d'une éjaculation précoce. Il te vide le frigo. Il t'apprend à tomber. C'est une salle des machines.
L'oreille en salle d'un éléphant à couche d'un puma.
Tu veux quoi de plus
à la couche d'un puma?
Tu veux des frites avec connard? Tu veux des frites avec connard? Tu veux des frites avec... C'est pas un bon riff ça. C'est pas un bon pizza. Alors bouffe-le,
bouffe-le.
Bouffe mon beat,
bouffe,
bouffe mon beat.
Bouffe mon beat.
Le casa qui t'excite. C'est tout ce que tu mérites.
Nous sommes à Rennes au Festival des médias indépendants. Ça va bientôt ouvrir. Et là, ce matin, je viens de découvrir un nouveau journal, un journal associatif étudiant, l'Agrafe. Donc, y a deux personnes qui sont là au stand pour le présenter. Je vous laisse vous présenter déjà.
Bonjour, moi je suis Jade. Je fais partie de la rédaction et du bureau de l'Agrafe depuis maintenant un an.
Moi, je m'appelle Agathe. Je suis référente du pôle rédaction et je fais partie de l'association depuis maintenant 2 ans.
Donc l'Agrafe, là il y a le numéro 31 qui vient de paraître, c'est avril 2026. Alors déjà, pour situer un peu l'Agrafe, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de ce journal?
C'est le journal de la fac de Rennes 2 de base. Et en fait, c'est après le Covid, il n'y avait plus de journal étudiant à Rennes. Et du coup, c'était la volonté de recréer ce média pour et par les étudiants. Et donc, depuis 2022, c'est un journal qui est mensuel, sauf de temps en temps pour l'été, par exemple, où il n'y a plus trop d'étudiants à la fac. Donc voilà.
Et pareil, voilà. J'ai rien d'autre à rajouter.
Et donc, c'est un journal qui est fait à la fac de Rennes. C'est un journal qui concerne uniquement l'actualité de la fac, ou est-ce que c'est un journal d'information locale, nationale, internationale?
À vrai dire, on fait un peu tout en disant qu'on a différentes rubriques. Qui, par exemple, on a la rubrique campus qui se concentre exclusivement sur du coup, la vie de la fac et de Rennes plus largement. Et par exemple, on a d'autres rubriques qui se concernent du coup, les rubriques des sujets internationaux et nationaux. Ça dépend en fait des rédacteurs.
Et comment est-ce que vous fonctionnez ? Vous avez une grosse équipe ? C'est un journal où l'équipe rédactionnelle tourne en fonction des années, puisque c'est à la fac ?
C'est ça, en fait, en fonction des étudiants. À la rentrée sur le campus de Rennes 2, il y a ce qu'on appelle la Campus Week. Donc là, on essaye de recruter un maximum d'étudiants. Et ensuite, on s'organise par réunion tous les mois. Donc il y a les réunions rédaction, où là, on récupère les étudiants qui souhaitent écrire leur sujet pour ensuite voir dans quelle rubrique on peut les mettre, vu qu'on a quand même une limite de pages qui est de 24 pages. Donc on ne peut pas non plus accepter tous les sujets. Et ensuite, ça peut vraiment tourner en fonction des mois. Il y a des personnes qui peuvent venir écrire qu'une seule fois, comme venir écrire tous les mois, on est vraiment très ouvert sur ça.
Et c'est vrai qu'on a une équipe qui compte à peu près maintenant 30 rédacteurs et ça tourne à peu près tous les mois. C'est vrai qu'on n'a pas à se plaindre niveau contenu, on a de quoi.
Un mensuel, c'est quand même un sacré rythme à tenir. Comment est-ce que vous travaillez ? Vous avez un comité de rédaction qui se réunit toutes les semaines. Comment est-ce que vous faites le choix des articles ? Est-ce qu'il y a des dossiers qui sont prévus à l'avance ? Est-ce que vous réagissez à l'actualité ?
C'est vrai que du coup, on essaye de réagir un peu à l'actualité, mais toujours avec la perspective que du coup, nos réunions de rédaction ont généralement lieu en début du mois. Et que du coup, on essaye de faire des sujets qui pourront paraître sur le temps long, à peu près du coup 2 mois. Et c'est vrai que ouais, c'est à peu près ça.
C'est vrai que pour l'actualité chaude, on ne peut pas se permettre. Par exemple, on avait fait pour le mois de mars un article sur les manifestations en Iran, sauf que d'ici la fin du mois, il y a eu la guerre. Donc c'est des sujets comme ça où on a été obligé de, vu que c'est un journal papier qu'on imprime, on a des contraintes de, que ce soit par l'édition, faire l'assemblage par la suite et ensuite on l'envoie à la reprographie de Rennes 2. Donc il y a des sujets où on ne peut pas se permettre de prendre des qui peuvent changer trop rapidement, on ne peut pas se permettre par rapport à notre organisation.
Et justement, vous dites que c'est un journal papier, c'est un journal uniquement papier ou est-ce que vous avez également un site Pure Player où vous publiez des articles qui est plus vivant, où il y a une activité quotidienne hebdomadaire contrairement au journal qui est mensuel ?
Du coup, c'est vrai que depuis quelques temps, on a un site internet. Après, c'est vrai qu'on essaie de... En tout cas, cette année, on essaye de le rendre un peu plus vivant en proposant d'autres articles qui, du coup, peuvent pallier au fait que certains sujets peuvent périr très vite. Et oui, c'est vrai que parfois, il est un peu plus fourni que le papier. Et c'est un avantage et c'est une petite nouveauté dans l'association.
Et est-ce que vous faites une différence entre ce qui est publié sur Internet et ce qui est publié dans la version papier mensuelle de la GRAF ?
Sur Internet, on n'a pas de contrainte de limite de caractère. Donc ça peut permettre aux rédacteurs de faire une version, par exemple, plus courte sur le papier et plus longue sur Internet. Donc c'est sur ça que ça peut différer. Et après, oui, c'est ça, comme Agathe disait, des articles avec de l'actualité plus chaude que là, on peut publier directement sans contrainte d'imprimerie, etc. sur le site.
Mais du coup, est-ce qu'on retrouve les mêmes articles ? C'est un peu ça ma question.
Oui, ça, on retrouve les mêmes articles et les versions PDF de nos journaux papier aussi sur le site.
Et pourquoi avoir choisi au départ déjà une version papier ? Là, vous dites que le site internet, il commence à être de plus en plus alimenté, mais apparemment, vous êtes d'abord parti sur une version papier. C'est quelque chose qui vous a plus motivé ? Pourquoi vous êtes parti là-dessus alors qu'actuellement, partout, on nous parle de sites en pure player, le numérique. Moi, je suis super content, je suis fan de papier, donc ça ne me pose aucun problème. Mais je suis assez content de voir justement des étudiants, donc entre guillemets une nouvelle génération, qui également fait du journal papier.
À vrai dire, c'est vrai que nous, on est arrivés à l'université, c'était déjà du papier. Mais je pense qu'on aime tous ce côté papier, avoir quelque chose dans les mains. Et c'est vrai qu'on vient surtout de filières littéraires et de sciences sociales. Du coup, le papier, pour nous, a comme un intérêt assez important. Et même, je trouve que c'est toujours plus valorisant de voir son nom associé à quelque chose de papier que sur un site internet qui se perd parmi des milliers d'articles. Je trouve que c'est plus important et significatif pour nous, étudiants, d'avoir quelque chose de papier.
Et pareil, du coup, on le distribue dans un maximum d'endroits sur Rennes. Donc, il y a aussi le côté de le rendre accessible au maximum et de ne pas uniquement passer par les réseaux sociaux comme on aurait pu le faire en tant qu'étudiant à la fac.
Du coup, puisque vous le diffusez un peu dans plusieurs lieux sur Rennes, vous en tirez combien d'exemplaires? Comment vous le financez?
C'est financé par des subventions qu'on reçoit du CROUS, de Rennes 2, de l'Université de Rennes et de Rennes Métropole également. Et j'ai oublié, c'était quoi le reste de la question?
Les tirages, c'est variable selon les mois. Par exemple, au mois de septembre, on en a à peu près tiré 1500. Et par exemple, pour le mois d'avril, sachant que du coup, il y a les vacances et la période de partiel, on va plutôt en tirer 1000, ouais, entre 800 et 1000. C'est variable. Ça dépend en fait les moments forts de l'année ou pas.
Et du coup, là, il y a le numéro 26 avril 2000, non, numéro 31 avril 2026, donc l'Agrafe. Est-ce que vous pouvez rapidement un peu nous parler du sommaire, des sujets qui ont été traités dans ce numéro?
Donc là, on a inauguré une nouvelle rubrique, vu que cette année, on a eu pas mal de rédacteurs qui s'intéressaient à l'actualité internationale. Et c'est vrai que ça manquait dans nos rubriques. Donc là, le premier article du journal, c'est sur El Moncho au Mexique. Donc c'est un peu un retour en arrière sur ce qui s'est passé ce dernier mois. Et si tu veux présenter un autre...
Du coup, une des spécificités de notre journal, c'est qu'il y a un fort attrait pour la culture. Et du coup, on retrouve pas mal de rubriques culturelles et de comme au Festival Sirène, qui a été un temps fort ce mois-ci, du coup, à Rennes 2. Et voilà.
Oui, ça, on a pas mal de recommandations culturelles. Après, on a eu ce mois-ci une interview des étudiants Erasmus aussi de Rennes pour les mettre en avant. Recommandations aussi pour, par exemple, le Festival Mythos. Il y a eu un article... En fait, c'est très libre. Donc là, il y a eu des rédacteurs qui ont écrit sur le Ragebait, qui est en fait l'idée d'amener les vues et les réactions sur Internet par l'idée d'énerver. Donc ils ont fait un article sur ça. Il y a eu un article sur les crises humanitaires oubliées par rapport au rapport de l'ONG CARE qu'ils font tous les ans. Voilà, il y a eu pas mal de choses ce mois-ci, vraiment très différentes les unes des autres aussi.
Et c'est vrai qu'on a des sujets qui sont assez divers selon les mois et qui montrent des préoccupations. Par exemple, on a une rédactrice qui a écrit un article sur le fait de cette fascination pour les choses un peu morbides. Et c'est vrai que c'est des sujets assez cool à voir parce qu'on ne les voit pas partout. Et ouais, c'est plutôt gratifiant de les voir sur papier et de voir que ça plaît aussi.
Vous faites partie des créatrices du journal ?
Non, du tout. Du coup, ça a été créé en 2022. Moi, ça fait 2 ans que je suis à Rennes 2, du coup. Donc, ça fait un an environ que je suis dans l'association.
Bah, pour ma part, c'est pareil. Du coup, je suis à Rennes 2 depuis 2023. Et lorsque je suis déjà arrivée à la fac, c'était déjà en place et déjà bien implanté.
Et c'est quelque chose que vous voulez continuer après la fac? Quelque chose qui vous motive? Alors, soit partir dans le journalisme, soit rejoindre d'autres équipes, d'autres médias? Parce que je pense que là, vu que c'est un journal étudiant lié à la fac, une fois que vous aurez peut-être fini vos études, vous n'allez pas contribuer à ce journal-là. Mais ça vous a intéressé, ce travail justement de journalisme, d'écriture?
Oui, pour ma part, du coup, étant en L3, moi je m'intéresse du coup aux écoles de journalisme pour l'année prochaine. Et j'espère que du coup, ce sera quand même quelque chose de gratifiant. Et oui, c'est toujours une bonne expérience à faire en licence. Et c'est même plutôt cool à côté des cours qui peuvent parfois paraître un peu... Comment dire ?
Plus théorique.
Ouais, plus théorique. C'est une bonne échappatoire.
Et pour ma part, moi, je recherchais plutôt le côté associatif et que pour le coup, j'ai vraiment adoré à l'Agrafe. Donc, je sais que même si je suis plus sur Rennes, je rechercherai à nouveau d'autres associations, que ce soit des médias ou même des associations militantes. C'est vraiment quelque chose que je garderai, je pense, plus tard.
Là, on a présenté l'Agrafe, donc le journal associatif. À côté de ça, vous avez aussi un autre format qui s'appelle le Trombone. C'est lié aussi à l'Agrafe. C'est la même équipe rédactionnelle?
Pour le coup, il n'y a pas d'équipe rédactionnelle, c'est uniquement une équipe d'édition. Et en fait, on demande des contributions artistiques d'étudiants et qu'ensuite on met en page dans un plus petit format. Donc c'est vraiment une équipe uniquement d'édition et de recherche de contributions. C'est une plus petite équipe, ils sont une dizaine environ au Trombone.
Donc bah, pour les auditeurs et auditrices qui voudraient justement soit se procurer l'agrafe, soit suivre un peu ce que vous faites, le site internet, l'adresse
c'est l'agrafejournal.com, donc tout attaché avec un F à agrafe.
Merci beaucoup, bonne continuité. C'était les autres voix de la presse avec Problématique et l'agrafe rencontrée au Forum des médias indépendants à Rennes en avril dernier. À la semaine prochaine, d'ici là.
On va s'interroger ton stylo.